Le snobisme a quelque chose de presque sympathique.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette première revue de livres, cette première émission que nous avons appelée La bibliothèque à la loupe, et une émission dans laquelle nous allons essayer en quelques minutes de vous présenter un livre qui nous a beaucoup marqué, qui nous a beaucoup plu à la rédaction et qui nous permet de mieux appréhender le monde qui nous entoure, de mieux comprendre tout simplement ce qu'il en est de la réalité. Ça peut être des romans, ça peut être des livres témoignages, souvent des essais, et d'ailleurs c'est par un essai que nous allons commencer. Il s'agit d'un bouquin qui est sorti au tout début de cette année 2020, et donc qui s'appelle « Le djihadisme français », sous-titre « Quartier, Syrie, prison ». C'est écrit par Hugo Micheron, et c'est sorti chez Gallimard dans les collections « Esprit du monde ». Alors, je vous ai parlé du sous-titre « Quartier, Syrie, prison », et il est vrai que cet aspect triptyque est très présent dans le livre. Mais on en reparlera un peu plus tard. Il faut d'abord préciser l'événement que c'est dans la recherche sur le thème du djihadisme. C'est la première fois qu'un tel travail est fait, en fait, et qu'on assemble ces trois parties-là. C'est un travail d'un universitaire reconnu, Hugo Micheron, et chaire d'excellence sur le Moyen-Orient dans une université parisienne. Et là, on est sur la transposition de sa thèse, revue et augmentée, et d'ailleurs dans cette édition préfacée par Gilles Kepel, quand même un spécialiste reconnu des questions de djihadisme et de radicalisation. Et donc, tout se forme sous ce triptyque, quartier, série, prison, que lui nous encourage à comprendre comme une continuité. Alors, quant à l'auteur par quartier, en fait, Hugo Micheron part de la thèse que le djihadisme s'est développé en France à partir d'enclaves de territoire, même minime, et donc ça donne lieu à de vraies enquêtes de terrain, notamment au Grand Mirail, un quartier de Toulouse, mais originellement dans un tout petit village de l'Ariège, Artigas. Et donc il suit le parcours de quelques acteurs qui reviennent d'Irak, qui ont été radicalisés en France ou à l'étranger, de quelques individus vraiment, et qui peu à peu, à force de prosélytisme, vont finir par acquérir d'autres gens, être présents sur les marchés, à ouvrir des écoles hors contrat, à ouvrir des lieux de culte. Et donc, c'est selon lui comme ça qu'on explique les départs djihadistes, et pas vraiment selon de purs critères socio-économiques, comme on le dit souvent. D'ailleurs, la carte des départs vers le djihad ne se superpose pas avec la carte de ce qu'on appelle couramment les banlieues sensibles, et tout se joue vraiment sur la présence de ces acteurs. Et je vous propose d'écouter ce qu'en disait Hugo Micheron à ce propos au micro de France Inter, c'était à la sortie de son livre en janvier 2020.
Et de ce point de vue-là, il y a un exemple qui me semble assez parlant, c'est la différence entre Trappes et Chanteloup-les-Vignes. Trappes, malheureusement, et encore une fois, ce n'est pas toute la ville de Trappes, m'a été très concernée pour les départs en Syrie. Il y a eu 85 départs pour la Syrie et l'Irak entre 2012 et 2018 pour la petite commune de Trappes, 80 000 habitants. Une commune qui, certes, est affligée de tout un tas de maux économiques et sociaux, mais de l'autre côté de la Seine, à quelques kilomètres de là, on a Chanteloup-les-Vignes qui... finalement présente le même profil socio-économique, et là on a zéro départ. Donc en fait, réduire le djihadisme à la question socio-économique, finalement, c'est se priver de la compréhension de l'ensemble. C'est une toile de fond très importante, il ne faut pas la mettre de côté, mais elle n'explique pas tout, il faut aller beaucoup plus loin, et de ce point de vue-là, la présence d'acteurs est très importante.
Et donc, le fait de remonter à la source, ça s'avère vraiment très intéressant, parce que le fait de remonter à cette poignée de personnes, ça évite largement beaucoup de fantasmes sur la propagation de l'islamisme. Mais néanmoins, on soulève ce travail de sape et de prosélytisme jusqu'à l'année 2012, que l'auteur dans le livre décrit comme un tournant, un vrai tournant, en France, dont l'onde de choc n'a pas été assez bien prise en compte. Non seulement parce que cette forme de propagande, ce prosélytisme commençait à porter ses fruits, mais parce que les attentats perpétrés cette année-là par Mohamed Merah allaient vraiment lancer la série d'attaques qui allait suivre dans les années suivantes. La seconde partie est elle aussi basée sur des enquêtes de terrain, mais du coup en Syrie, et se base donc sur plusieurs dizaines d'entretiens où on suit vraiment des personnes ayant réellement existé, et on s'accroche souvent à leur histoire. Alors là, outre un récapitulatif très clair et précis de l'histoire du djihadisme en Syrie, de la présence des combattants français sur ce territoire, qui est quand même une prouesse, parce que, comme on le sait tous, la situation est très compliquée. Mais l'ouvrage propose en plus une analyse vraiment très intéressante et presque sociologique en comparant les différentes vagues de combattants français qui arrivent au Levant, et notamment les différences entre la première vague, les premières vagues qui, elles, sont très formées, que ce soit idéologiquement, que formées au combat, et des vagues qui arriveront plus tard, mais qui, elles, seront beaucoup plus amatrices. Alors, la dernière partie, prison, est probablement la plus importante pour le débat public, parce qu'elle décrit ce qui se passe actuellement dans les prisons françaises. La principale question qui s'est posée à l'administration carcérale, mais aussi aux autorités, a été: faut-il isoler les djihadistes et les regrouper entre eux dans des cellules spéciales, ou au contraire, les entre guillemets, diluer parmi la masse d'autres détenus? Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, c'est une question compliquée. Au final, il s'en est retrouvé vraiment un très grand nombre dans des sections spéciales qu'on appelle UPRA. Et surtout, l'auteur nous informe que derrière les barreaux se trouvent des individus qui n'ont absolument pas renoncé à leur dessein et qui, dans l'ombre des prisons, préparent ce qu'eux-mêmes appellent l'après-Daesh. Et donc, le constat final, Hugo Micheron, et on réécoutera un extrait de son interview, c'est que le djihadisme n'a pas du tout disparu et est en période de restructuration.
En grande partie, en tout cas, c'est le seul lieu où moi j'ai rencontré effectivement des individus qui étaient structurés idéologiquement et qui se projetaient dans la suite, dans l'après-Daesh, en fait, ce qu'ils appelaient l'après-Daesh. Et c'était d'autant plus surprenant que ces individus que j'ai rencontrés notamment à partir de l'été 2016, c'est-à-dire au moment où Daesh n'avait pas encore disparu. Raqqa n'était pas tombé, Mossoul n'était pas tombé, mais ces individus, quelque part, avaient compris qu'en perdant un certain nombre de postes frontaliers, Daesh était terminé en Syrie. Et depuis, leur cellule, finalement, avait identifié une chose, c'est que les revenants étaient de plus en plus nombreux, et donc que l'espace principal du djihadisme devenait les prisons. Mmh. Et de ce point de vue-là, vous avez raison, la prison n'est pas du tout coupée du reste des dynamiques dans la société. De même qu'il n'était pas coupé de ces dynamiques moyen-orientales. Et là-dessus, il y a un biais qui est très important encore dans le débat public, qui considère souvent que la prison est coupée de tout.
Donc oui, c'est un livre qui se termine sur une note moyennement positive, mais qu'il faut absolument prendre en compte. Et c'est surtout un livre qui a le mérite de couvrir intégralement cette question, sous beaucoup d'aspects, et dans toute sa complexité historique, avec une forme d'accessibilité qui est très agréable pour le lecteur. Un livre que toute la rédaction vous conseille vivement. Et donc, c'est sur cette présentation que se clôt notre premier épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir via les réseaux sociaux, à nous proposer également d'autres futures lectures, à nous parler de ce que vous avez pensé de ce livre-là, même à nous apostropher pour des questions. Nous sommes tout à fait à votre écoute. Encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.